Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous recevoir de nouveau dans cette belle station Ozone qui a l'avantage d'être climatisée. Alors, je sais qu'il y a des débats sur pour et contre la climatisation. À l'heure qu'il est à 18h04, je suis pour. Heureux de vous retrouver pour cette remise du prix du réel et la discussion avec nos lauréats. Vous savez, le prix du réel qui couronne chaque année à la fois un ouvrage, un roman ou un essai, et puis une enquête dessinée, en partenariat bien sûr avec la librairie Mola, le CIC du Sud-Ouest, et puis Sciences Po Bordeaux, qui est là, représenté par son président, que j'aperçois. Merci d'être là. Cette année, nous avions, comme l'année précédente, j'ai rejoint ce jury seulement l'an dernier, il y a eu de très belles publications qui ont été couronnées par ce prix du réel. Et cette année, ce sont deux ouvrages vraiment passionnants et, j'allais dire, émouvants pour l'un et très instructifs pour l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. L'ouvrage de Rodolphe Barry, ici présent. Bonsoir, Rodolphe.
Bonsoir.
Le titre est très beau déjà. Une lune tatouée sur la main gauche. Quand on lit le livre, d'ailleurs, on voit que c'est une demi-lune, si j'ai bien compris. Mais une lune tatouée, ça aurait été moins bien au titre, une demi-lune. Voilà. Une lune tatouée sur la main gauche, qui, on va en parler évidemment dans un instant, qui s'attache à la figure de ce héros américain qui était Sam Shepard, comédien, écrivain, dramaturge, enfin, on va en parler. Et d'ailleurs, je réalise que nous avons couronné deux figures, c'est-à-dire Sam Shepard et puis Bob Denard. Je pense que dans le Sud-Ouest, il dit quelque chose, il évoque quelque chose, puisque son berceau était dans le Médoc. Et nous accueillons Lisa Cognier avec nous ce soir, qui a dessiné tout cet album et qui est avec évidemment son complice. Alors, il faut que je... Olivier, voilà, Olivier Jouvray, et qui raconte l'histoire assez incroyable de celui qu'on appelait l'affreux, de ce mercenaire, de cet homme stipendié à tout un tas de puissances, mais en particulier quand même et d'abord à la France. Et donc là, on plonge dans un autre univers de cette qui raconte aussi un pan important de la décolonisation, de ce que fut l'Empire français, et en particulier la relation avec la France, qu'on a appelée la France-Afrique. Je voulais saluer aussi les membres du jury qui sont là, qui ont fait, c'était le film de Chéreau qui s'appelait « Ceux qui m'aiment prendront le train ». Donc nous avons pris le train avec Judith Perrigno tout à l'heure, c'était très chaud, mais Richard Verly, Jean-Claude Raspienjas sont là, et puis évidemment notre représentant du CIC du Sud-Ouest et de Sciences Po Bordeaux, comme je dis, qui sont un peu les régionaux de l'étape, mais qui sont très importants pour nous dans nos délibérations et dans le supplément d'âme qu'on essaie de donner à ce prix, de l'enraciner là où il est. Alors, on va commencer avec vous, Rodolphe Barry. Alors, quand je me suis penché sur votre parcours, j'ai pu mesurer toute le prisme américain d'abord, avec Raymond Carver, avec Cormac McCarthy, avec aussi une incursion chez le scénariste de La Nuit du Chasseur, et puis aussi Charles Juillet, dont vous avez, je pense, qu'il y a un compagnonnage important avec l'œuvre de Charles Juillet, qui est une œuvre justement très très intime. Ce que je voulais d'abord dire sur ce livre, avant qu'on entre dans cette figure de Sam Shepard. Je crois que c'est ce qui nous a touché dans ce jury, et moi qui m'a touché particulièrement aussi, c'est, j'allais dire, le style, c'est comment c'est écrit. Voilà. Et à un moment donné, il y a une allusion de Sam Shepard lui-même sur qu'est-ce que c'est que le style, qui dit un peu la vie de qui est quelqu'un à travers son style. Et à travers votre style, on voit beaucoup de sensibilité, beaucoup de formes d'introspection, un peu de mélancolie, et en même temps tous les pores de la peau ouverts pour essayer de nous faire voyager à l'intérieur de l'âme d'un homme qui est Sam Shepard. Alors, pour commencer, je voulais vous demander si ce livre est un rêve, ou est-ce que ce rêve, si c'en est un, et pourquoi pas, est-ce qu'il accroche quelques... quelques encoches comme ça dans une réalité vécue, ou est-ce qu'on est dans une sorte de roman? Comment vous le définiriez? Comment vous caractérisiez ce livre, ce récit?
Bah, c'est un roman, oui. Hein, qui met en scène un narrateur qui va rencontrer un écrivain qui le fascine.
C'est ça.
Sam Shepard. Peut-être qu'il a des questions à lui poser, des choses à lui dire. Ah, oui. Il sent une nécessité d'aller le voir pour que cette rencontre ait lieu. Il ne sait pas si ça va se passer ou pas. Il part un peu comme ça, à l'aveugle. Oui. Il va lui arriver quelques péripéties. Il va finir par le rencontrer. Ils vont passer une nuit ensemble, une soirée.
Oui.
Et ils vont se dire des choses, ils vont parler. Et c'est là que peut-être ce narrateur va être encore plus fasciné. Il va décider de s'engouffrer dans la vie de Sam Shepard pour essayer de comprendre pourquoi cette fascination.
C'est ça.
Qu'est-ce qui fait que cet homme est celui qu'il est devenu à 70 ans? Qu'est-ce qu'il incarne? Qu'est-ce qu'il dégage?
Oui.
Qu'est-ce qu'il sent chez cet homme? D'où ça vient? Et il veut comprendre un petit peu le parcours pour essayer de mieux le connaître et de s'en approcher encore plus.
C'est ça. Vous, c'est un personnage qui vous a toujours à travers... Parce que alors, vous dites d'abord l'écrivain Sam Shepard. En effet, c'est un écrivain très important, c'est un dramaturge. C'est un peu, il a une œuvre un peu comme Tennessee Williams. Il a écrit, je crois, 44 pièces de théâtre.
Un peu plus. Hein.
Plus que ça, même encore. On le connaît au cinéma, évidemment, avec L'étoffe des héros. Ce pilote d'avion, ce jet tout rouge. On disait qu'il avait peur en avion, lui.
Oui, il ne prenait jamais l'avion.
Il prenait jamais l'avion.
Quelques fois, mais sous anxiolytique, sous alcool.
Voilà. Voilà, c'est le cinéma qui fait que, évidemment, dans Les Moissons du ciel, on voit ce visage, cette personnalité. C'est d'abord un écrivain pour vous?
Oui. Si j'ai décidé de raconter sa vie, c'est avant tout la rencontre d'une écriture. Hein, c'est à l'adolescence, j'ai lu un de ses livres, un de ses premiers livres traduits qui s'appelait Motel Chronicles. Et là, j'ai rencontré un écrivain, j'ai rencontré une conception de l'écriture qui m'a tout de suite accroché. Et j'ai voulu aller voir derrière cette écriture quel homme se trouvait. Et au fil des années, j'ai mis 20 ans hein, à mûrir ce projet. J'ai découvert que la vie de Sam Shepard n'était pas du tout celle qu'on croyait, celle qu'on nous imposait par les images hollywoodiennes.
Hollywoodienne, oui. Lui, il veut se tenir loin d'Hollywood.
Et j'ai découvert surtout que c'était un pur écrivain. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie entière à l'écriture et que le cinéma, pour lui, n'était qu'un moyen de gagner du temps, de l'argent, pour pouvoir écrire.
C'est ça.
Et évidemment, tout de suite, là, ça m'a intéressé.
C'est ce qu'on comprend très bien. Donc, je parle aux écrivains dans cette salle. Faites du cinéma et après, vous aurez plein d'argent pour écrire vos livres. Alors,
il ne voulait pas faire de cinéma. Il a commencé à écrire très jeune pièces qui ont connu un certain succès à New York. Et c'est le cinéma qui est venu le chercher. Lui, quand Malick
comme
vient
scénariste
le chercher,
au départ, non.
Non, comme dramaturge. Comme il a commencé à écrire des pièces dans le Broadway off, comme on disait, voilà. Un peu des théâtres underground. Beaucoup, beaucoup, facilement, parce que c'était encore une conception un petit peu à la Beat Generation. Première émotion, première pensée, première.
Voilà.
Il fallait pas trop revoir tout. Et après, il est revenu, heureusement, sur cette conception de l'écriture.
C'est ça.
Mais c'est vraiment le cinéma qui est venu le chercher. Lui, il n'était pas du tout intéressé pour ça.
Oui.
Parce qu'il voulait jamais être considéré comme un écrivain qui fait du cinéma, pour lui, c'était pas intéressant.
Oui.
Il a préféré par la suite être considéré comme un écrivain qui faisait parfois du cinéma, vous voyez, et être considéré avant tout pour son écriture. Et Terrence Malick est venu le chercher pour Les Moissons du ciel. Il n'avait jamais joué au cinéma et il a fallu le décider. Il avait d'abord refusé le rôle. Et après cette expérience, il n'était pas dit qu'il y retourne tout de suite. Mais c'était une époque où il vivait en tribu avec son beau-père, sa femme. Il fallait faire tourner un ranch. Et il a fait de temps en temps des incursions dans le cinéma. Mais c'était pour lui pas un... Le cinéma ne représentait pas un instrument de connaissance.
C'est ça.
Il ne s'y retrouvait pas.
Oui.
Alors que l'écriture était pour lui quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus profond.
Alors, on va y revenir sur l'écriture. Mais donc, il y a le Sam Shepard... devant la caméra, comme comédien. On a cité Les Moissons du ciel, L'étoffe des héros, mais il y a aussi le Sam Shepard scénariste, et pour des films considérables.
Oui. Michelangelo Antonioni vient le chercher pour écrire Zabriskie Point, alors qu'il vient de recevoir une Palme d'Or pour Blow Up. Après, il a travaillé avec le grand photographe américain qui a fait aussi du cinéma, Robert Frank. Il a travaillé sur divers scénarios.
Paris-Texas.
Importants, évidemment. C'est comme ça que je l'ai rencontré aussi. C'est en découvrant qu'il avait été le scénariste de Paris, Texas. Wim Wenders est venu le chercher aux États-Unis pour adapter son livre. Et évidemment que ce sont des films qui sont restés. Hein, il a lui-même écrit des scénarios pour lui qu'il a tourné, hein, parce que il a été scénariste, il a été dramaturge, scénariste, mais il a été aussi réalisateur. On ne le sait pas. Il a tourné deux longs métrages qu'on ne connaît pas bien en France pour des questions de droit, mais c'est pas rien de réaliser deux longs métrages aux États-Unis.
Oui.
Enfin voilà, c'est une vie assez riche. Il a commencé comme musicien dans un groupe de rock. C'est une vie d'aventure, de recherche permanente.
D'ailleurs, cette chanson, une chanson, est dans Easy Rider.
Oui, le Modal Rounder, c'est une des chansons figure dans le film. Mais il a aussi écrit, ce qu'on ne sait pas, des textes pour Bob Dylan. Oui. Et ça, ils sont peu à l'avoir fait.
Il y a une scène dans votre livre où Dylan et lui sont la nuit en train de se cailler devant l'océan et qu'ils écoutent du blues.
Oui, c'est pendant la tournée Rolling Thunder que Dylan avait organisée sur la côte Est. Et Sam Shepard avait été engagé à l'époque pour refaire des plans, pour faire du cinéma, pour écrire des petites scènes, parce qu'ils tournaient un film en même temps sur cette tournée. Et ils ont passé ensemble plusieurs mois. Et c'est né un rapport un peu bizarre entre eux. C'était un peu froid, mais en même temps, il y avait une grande estime. Ils se sont retrouvés tout au long de leur vie comme ça.
C'est ça. Alors, on va y revenir parce qu'on va rencontrer... on va rencontrer Patti Smith, dont il a été, je crois, le compagnon à un moment donné. On trouve Kerouac. Et donc, ce titre, est-ce que vous pouvez nous raconter justement cette histoire de cette lune ou de cette demi-lune
qui cette demi-lune que Sam Shepard avait tatouée sur la main. Il y a certaines photos qui existent où on les voit. Et puis, d'ailleurs, on peut même l'apercevoir dans certains
de ses films. Entre le pouce et l'index.
Il a cette lune qu'il s'était fait tatouer avec Patti Smith. Ils habitaient le Chelsea Hotel dans les années 70.
Mythique
hôtel. Voilà. Ouais. Et avait choisi cette lune parce que c'est dans le calendrier des Indiens Hopi. C'est une lune qui représente son mois de naissance. C'est la lune des jeunes faucons. D'ailleurs, il a écrit un livre de poésie qui s'appelle Le Lune Faucon. Et elle s'était fait tatouer des éclairs sur le genou.
Oui. Mais je voudrais lire au public une phrase qui est très importante et que vous avez reprise dans la quatrième de couverture à propos de... Parce que, bien sûr, quand on lit ce livre, on essaie de comprendre, en même temps qu'on découvre la personnalité de Sam Shepard. Quelquefois, on a un peu l'impression qu'on est avec Jim Harrison, qu'on est avec ces gens-là qui sont près de la nature, qui refusent le système. Bon. Et vous dites ça, votre narrateur. Les livres de Shepard sont pour moi comme des manuels de survie, de liberté. Ses errances sont devenues les miennes. Il est de ces écrivains qui ne s'adressent pas seulement au cœur ou à l'esprit, mais à la moelle épinière. Alors, cette phrase m'a retenu et je l'ai relue parce que je me dis, mais je comprends le cœur, je comprends l'esprit, en tout cas j'essaye. La moelle épinière, donc c'est les tréfonds, qu'est-ce qui vous remue tant chez Sam Shepard?
Cette conjonction, c'est une conception de l'écriture qui, vous le disiez tout à l'heure, le style c'est l'homme, hein, qui correspond tout à fait à la conception qui est la mienne. C'était une rencontre, tout de suite ça a fait écho en moi et c'est une conception finalement dont on peut parler très simplement. Il écrit avec des mots simples, il refuse toute fioriture, et en même temps, chaque image doit être très forte, très évocatrice, et peut-être contenir plusieurs dimensions. Évidemment, ça doit être de la musique, ça doit être aussi s'adresser au corps et à l'esprit, et à la moelle épinière, au système nerveux. Et c'est ce qui rend cette écriture à la fois très simple, et à la fois très profonde, qui fait un effet quand on le lit. C'est tous ces ingrédients qui font que ça m'a touché et qui continuent encore à me toucher. Ça m'a touché tout au long de son œuvre. Je voudrais dire une chose, c'est que cette conception de l'écriture, par exemple, elle n'est pas loin de celle d'un Raymond Carver, qui, avec les mots les plus simples, les plus quotidiens, peut dire les choses les plus profondes. Et cette conception rejoint celle de Charles Juliet, on en parlait tout à l'heure, qui est le premier écrivain que j'ai rencontré, qui est devenu un ami et qui m'a appris beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir Raymond Carver, il m'a fait découvrir James Hadji. Et finalement, cette conception de l'écriture, elle est aussi la sienne. Donc, et dire les choses essentielles avec les mots les plus simples. Et ce n'est pas facile. Ça vient de Tchekhov, ça vient d'Isaac Babel. Chaque mot est pesé, chaque adjectif est pesé. Enfin, c'est une précision absolue. C'est le travail de l'écriture. Vraiment... le grand travail de l'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus, qu'il n'y ait pas moins, qu'il y ait juste ce qu'il faut.
Oui.
Et ça, c'est pour moi l'essentiel du travail de l'écriture encore aujourd'hui. Et ça vient tout au long de ces écrivains.
En vous lisant, j'ai pensé aux phrases de Colette. Vous savez, Colette qui disait écrire avec les mots de écrire comme personne avec les mots de tout le monde, et qui disait quelquefois la littérature touche un nerf. Donc touche un nerf, ben, elle touche à la moelle épinière. Alors il y a ce passage dans votre livre, c'est votre narrateur. Dès ses premiers textes à Shepard, j'ai découvert que la vie et le monde me faisaient un effet identique. Pas besoin d'avoir vécu les mêmes choses pour comprendre ce qu'il raconte. Lui aussi a fixé des vertiges. Lui aussi a fixé des vertiges. Écrire, c'est justement vertigineux, et c'est essayer de maintenir ce qui nous rend, ce qui nous déstabilise, de le fixer sur la page.
Oui, je pense que c'est la grande difficulté de l'écriture, c'est de pouvoir faire en sorte que l'émotion, la pensée, coïncide absolument avec l'expression. Il ne faut pas que ça déborde, il faut que ce soit exactement ça, sinon on est à côté et c'est perdu. Et fixer des vertus, c'est ça.
Alors, et je continue ce passage. Vous dites, lui aussi a fixé des vertiges. Certaines de ces phrases sont gravées dans mon esprit. Je lui dis que mon Motel Chronicles a été un événement pour moi, que ce recueil m'a aidé à sauter le pas. Oh, tu es un écrivain. C'est un peu grâce à lui que j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Alors évidemment, c'est pourquoi je vous ai demandé si on était dans un roman, parce qu'on vous voit d'une certaine manière, et le livre commence de la manière suivante. Je ne veux pas trop le déflorer, mais juste les premières pages qui vous donnent... Donc le narrateur, c'est la nuit, donc il dort, et il est réveillé par un coup de fil à 3h du matin... qui vient des États-Unis, et il apprend la mort de Sam Shepard. Et ensuite, on ne sait pas chronologiquement, mais on comprend que ce narrateur est parti quelques années plus tôt aux États-Unis, en Floride, rencontrer Sam Shepard, qui tournait une série télévisée. Et ce qu'il va lui demander, la première chose qu'il va lui demander, Sam Shepard, c'est de lui ramener quoi, hein ?
De la tequila.
De la tequila, voilà.
Pour pouvoir discuter tranquillement.
Et donc vous êtes renseigné sur les tequilas qui auraient pu plaire à
Sam Shepard. Il avait des goûts précis.
Il avait des goûts précis sur la tequila.
Oui.
Et vous aussi ?
Non, pas spécialement sur la tequila.
Mais donc effectivement, lorsque on vous suit, on est dans une sorte de, j'allais dire, de panthéon littéraire, parce que à mesure que cette conversation, donc qu'on comprend étant imaginaire, entre ce narrateur et Sam Shepard, on voit passer, par exemple, Oscar Wilde. Il y a cette phrase assez incroyable qui dit tout à l'heure, en sortant de son bungalow, il a dit en parlant de Sam Shepard, « Ok, allons festoyer avec les panthères. » Et ça, c'est une phrase de Wilde.
Oui, mais voilà aussi ce que j'ai découvert, c'est que Sam Shepard était quelqu'un très cultivé. Et en fait, j'ai découvert et compris pourquoi Sam Shepard m'intéressait autant. Mais il a fallu du temps pour que je le comprenne, c'est que je crois qu'il incarne ce qu'il y a de plus américain, profondément américain, le mythe américain.
Oui.
On l'a souvent pris pour le cow-boy, il élevait des chevaux dans des ranchs, il vivait à l'écart d'Hollywood, c'était quelqu'un plutôt pas facile, qui avait besoin de solitude, de silence, d'être proche de la nature. Et il rassemble aussi une sensibilité européenne. Et c'est, je crois, ce mélange qui est rare, qui m'intéresse et que j'ai senti avant même de pouvoir mettre des mots dessus. C'est par exemple quelqu'un qui, voilà, Wim Wenders, qui va tourner Paris, Texas, qui lui rêve d'Amérique, va chercher Sam Shepard, qui lui a des acquaintances avec l'Europe, avec la sensibilité européenne. Sam Shepard, tout jeune, lisait Knut Hamsun, les grands auteurs européens, et Volker Schlendorf, quand il adapte un livre de Max Frisch qui est Homo Faber. Il prend Sam Shepard pour incarner ce héros qui est un Suisse allemand, en fait. Donc, il y a vraiment des accointances comme ça entre l'Europe et les États-Unis, et Shepard incarne ça parfaitement. J'ai lu dans sa correspondance, dans la correspondance de Shepard, je suis tombé sur une lettre où il dit qu'il lit un livre de Charles Juliet. Et là, ça m'a fait un drôle d'effet. Ça m'a ému. Je me suis dit, tout se rassemble. Comment Sam Shepard peut-il dire un livre de Charles Juliet ? Il se trouve que Charles Juliet a écrit un livre de rencontre avec Samuel Beckett. Et Shepard étant un fan absolu de Beckett, et voilà, il lit ce livre qui avait été traduit dans les années 80 aux États-Unis, et il lit un livre de Charles Juliet. Et donc j'avais à la fois Sam Shepard et Charles Juliet dans la même page, et c'est comme si tout se mettait en place, tout coïncidait, et finalement j'ai été surpris sur le coup, et après pas tant que ça, parce que je me suis dit que c'était des chercheurs, autant Charles Juliet que Shepard étaient des chercheurs, étaient des gens qui avaient soif de connaissances, connaissances d'eux-mêmes. Ils étaient tournés vers une recherche de connaissances de soi. C'est quelque chose de très profond, qui est rare. Et Sam Shepard, voilà, ce que j'ai découvert aussi, toute sa vie a été embarquée dans une quête de la connaissance de soi. Il a suivi l'enseignement de Gurdjieff, qui est une sorte de gourou spiritualiste, qu'on peut aussi critiquer, qu'on a beaucoup critiqué en France, mais enfin, il a suivi cet enseignement qui rassemble un petit peu une sorte d'épanouissement à la fois physique et aussi qui rassemble des pensées orientales, le zen, pour voilà, comme ça, chercher à mieux se connaître. Parce que Shepard, toute sa vie et toute son œuvre en témoigne, a cherché à mettre en avant ce qui pouvait le freiner, l'empêcher d'être véritablement lui-même. Parce qu'on n'est pas tous nous-mêmes tout de suite. Il faut des fois du temps pour se rencontrer. Et lui avait compris ça très vite, très tôt. Et toute sa vie, il a mené cette recherche. Comme Charles Juliet, en France, a mené tout au long de son journal, c'est une quête de connaissance de soi. Donc c'est à la fois très rare de voir ça chez Shepard, qu'on imagine avec son chapeau de cow-boy et son gros ceinturon, c'était une sorte de... Voilà, étonnant.
Oui, à un moment donné...
Et je comprends que tout ça passe dans l'écriture. C'est ce qui rend cette écriture peut-être singulière.
À un moment donné, vous le décrivez comme ça, sous la lumière électrique, sa silhouette se découpe sur fond noir. À 70 ans, le Jésus rock'n'roll à la bouche de cow-boy, vieilli, épaissi, a conservé son magnétisme.
Oui, parce qu'il faut dire quand même qu'il était très beau. C'était un sexe symbole. Il aurait pu faire carrière dans le cinéma. Il aurait pu être Brad Pitt. Et il n'a jamais joué là-dessus. Au contraire.
Il n'a pas voulu.
Il a refusé plein de rôles. Il a refusé le soir où il a été nommé aux Oscars pour l'étoffe des héros. Il n'est même pas allé à la cérémonie parce que ce n'était pas du tout pour lui. Il a préféré rester seul pour travailler. Et voilà, il est toujours à l'écart. C'est quelqu'un qui a d'une grande intégrité, qui n'a jamais vendu son âme. Et ça aussi, c'est très important pour moi, parce que toujours, il a cherché à être vrai, à être authentique. Alors, j'en fais pas un saint, ce n'est pas du tout une agiographie, parce que Shepard était quelqu'un de difficile, pénible, qui était des fois, voilà, qui a eu une vie aventureuse, amoureuse, pas facile. On l'imagine bien.
Avec notamment Jessica Lange, qui est un grand symbole
de sa vie, une passion amoureuse tumultueuse. Et donc, Sam Shepard n'était pas facile, mais en tout cas, il avait une sorte d'intégrité et une authenticité qui, moi, me touche.
Vous dites à un moment donné, en le citant, il dit à son visiteur français, « Si tu regardes trop en arrière, tu risques de trébucher au moment de faire un pas en avant. » Ça, c'était ses leçons un petit peu de vie qu'il avait puisées dans ses lectures, dans son expérience, de ne pas trop regarder justement en arrière.
Oui, le bon vieux temps, c'est maintenant.
Oui.
Il avait toujours à faire, toujours à dire. Il a cessé d'écrire encore jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort peu de jours avant, après avoir fini son dernier livre, alors qu'il ne pouvait plus écrire.
Maladie enfermée dans son corps.
Enfermée dans son corps. Il a fini par dicter les dernières phrases. Donc, pour lui, c'était toujours le livre à venir, c'était toujours la nouvelle pièce.
C'est ça.
Et il fallait aller plus loin, comme Beckett.
On fait un pas. Rate, échoue, loin. Échoue mieux.
Échoue mieux.
Échoue mieux. Bon. En tout cas, ce livre, vous avez bien échoué. C'est vraiment... C'est magnifique parce que, justement, on sent votre quête à travers votre narrateur de vous approcher au plus près, de façon la plus fidèle possible, et en même temps, en laissant pour le lecteur une place à notre imaginaire. C'est-à-dire que vous ne nous imposez pas un Sam Shepard, vous nous l'esquissez, vous nous donnez quelques éléments pour qu'on puisse un peu le situer, mais c'est plus un portrait, j'allais dire, presque spirituel de Shepard qu'une biographie, ce qui s'apparenterait à une biographie, ce qui n'est pas du tout le cas. Vous n'allez pas lire une biographie de Sam Shepard. Vous allez lire
un portrait de Shepard en écrivain.
Voilà, c'est un portrait en écrivain. Et effectivement, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour mon, c'était mon cas, mais je pense que beaucoup d'autres, on avait en tête, moi j'avais en tête Les Moissons du Ciel, j'avais en tête L'Étoffe des Héros. Je ne savais pas qu'il avait été scénariste par ailleurs, mais cette œuvre écrite est en effet considérable.
Elle est considérable et pourtant très peu connue en France.
Oui.
Ou mal connue.
Oui.
Bon, son théâtre n'est pas du tout traduit.
Alors, vous pouvez nous parler, parce qu'il y a une trilogie sur son enfance, dont un des trois qui a eu le prix Pulitzer du théâtre, je crois, ou quelque chose comme
L'enfant
ça.
Enfoui.
L'enfant enfoui.
Oui, oui, voilà. C'est une pièce. Il était très jeune. Hein, il a eu le Pulitzer. Le livre n'était même pas, la pièce n'était même pas éditée sur un manuscrit. Mais il a écrit, oui, 50 pièces, hein, donc qui sont montées depuis le début. Hein, on ne le sait pas en France, mais je sais pas, le dramaturge américain le plus joué dans le monde.
Ah oui.
Oui. Donc ça, on dit ça aux Français, ah bon.
Oui.
Ces pièces sont jouées en continu à New York dans tous les grands théâtres américains, mais pas une, hein, une dizaine de pièces. Certaines sont jouées en continu depuis leur création par les plus grands acteurs américains. Sean Penn, Val Kilmer, Ed Harris, tous les grands acteurs qu'on connaît aujourd'hui ont joué Shepard ou continuent à jouer Shepard. Mm-hmm. Là, Joaquin Phoenix va reprendre une pièce à Broadway. Enfin, c'est pour les Américains, il est d'abord un dramaturge, d'abord un écrivain. Alors que pour nous, c'est juste un acteur.
Oui.
Et c'est voilà ce que j'ai voulu peut-être informer. Enfin, j'ai voulu expliquer, chercher à comprendre et dire voilà quel écrivain il est. On ne le sait pas. Je pense que la presse n'a pas véritablement fait son travail.
Oui. Elle s'est contentée d'une image un
son
peu toute
faite. Son livre Testament qui vient de paraître chez Robert Laffont, je crois, moi, je n'ai trouvé aucun article.
Ah oui. Oui.
Sur un écrivain de premier plan que je mets aussi au Crémant Carver.
Oui.
Pourquoi ?
Voilà. Il faut lire aussi Les Vitamines du Bonheur. Ça n'empêche
pas. Non, mais ça n'empêche pas.
Bien sûr.
Ça n'empêche pas. Mais
je sais pas, on a vraiment envie. Quand on vous écoute et qu'on vous lit, on a effectivement envie.
Patty Smith est encensée aujourd'hui par la presse, reçue en grande pompe partout. Elle est l'écrivain, alors que pas du tout. C'est Shepard l'écrivain.
Ouais.
Patty Smith a écrit très tardivement, même si
Just Kid est
un très beau livre sur ses enfants, sur sa jeunesse. Mais bon, ces livres suivants ne sont pas ceux d'un écrivain de premier plan.
Oui.
Et je pense que là, Shepard, il a un peu, je sais pas, il est passé à la trappe.
Il a pâti,
c'est
oui.
vraiment.
Il a pâti, pas de
le redécouvrir, quoi.
Ouais. J'aurais pas dû oser faire ça. C'est la faim, c'est la fatigue, c'est la chaleur. Vers la fin du livre, vous dites que, après avoir hésité, Sam Shepard a animé un atelier ou des ateliers d'écriture. Vous avez pu savoir ce qu'il a transmis dans cette...
Non, c'est très difficile, mais au début, il a refusé parce qu'il pensait qu'il serait très difficile pour lui d'apprendre quelque chose à des élèves parce que lui-même ne savait pas. Et en fait, s'il a accepté, c'est qu'il a pensé qu'il allait apprendre des élèves.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça qu'il a
décidé. Il a bien fait. Je pense que quand on fait ça, on apprend des autres.
De commencer par dire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche.
Oui.
On va essayer d'y réfléchir ensemble.
Oui. Une lune tatouée sur la main gauche. Franchement, vous pouvez le lire à deux mains. Et c'est un très, très beau livre. Et on est vraiment fiers de l'avoir distingué pour ce prix du réel 2022. Alors on était dans un univers, je dis pas de douceur, parce que comme vous l'avez dit très bien, Sam Shepard, il n'était pas facile non plus, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de poésie dans son parcours, dans sa vie. Enfin, on a l'impression que c'est un poète dans sa manière de vivre.
Une intensité permanente.
C'est ça, quelqu'un d'intense, voilà, d'engagé, d'intense. Alors Lila, nous voilà avec Bob Denard. Qui vous a donc, comme on dit, sans transition. C'est un très bel album que le jury aussi a voulu distinguer cette année. Et est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment s'est fait justement ce duo entre vous? J'ai compris que vous étiez à l'école avec Olivier, que comme ça vous avez pu parler de ce projet, il vous connaissait. Comment ça naît un projet comme celui-là où on a vraiment une source de documents, d'informations très, très fiables et très précises. Et puis après, on nous embarque, on nous prend par la main, non pas avec des mots, même s'il y a des mots dedans, mais par des scènes et par une sorte de, j'allais dire, de féerie de couleurs, parce que c'est quelque chose qui frappe quand on est dans ce Bob Denard. On n'est pas dans les affreux. D'ailleurs, lui, il veut changer, il veut qu'il soit beau, et d'une certaine manière, vous le rendez beau. Et comment on fait ? Comment ça commence ?
Alors, bonjour à tous, déjà. Du coup, la collaboration avec Olivier, ça s'est fait que donc j'étais son élève à l'école Émile Cole. Donc, au départ, ça se passait plutôt. J'allais le voir souvent, il me disait de recommencer. C'était ça le mode élève. Et après,
voilà, l'école Émile Cole à Lyon.
C'est ça, l'école Émile Cole à Lyon. Et plus tard, on a collaboré ensemble parce que on faisait partie d'une même association d'auteurs de bande dessinée à Lyon qui s'appelle l'Épicerie Séquentielle. Et cette association, elle est intéressante parce que c'est une association où on s'auto-édite collectivement pour créer des petits journaux à propos de Lyon, des anecdotes lyonnaises non fictives, quoi. Voilà, documentaires. Et du coup, on faisait partie de cette association et on a pu faire deux numéros de ce journal mensuel, donc qui s'appelle Les Rues de Lyon. Je vous conseille d'aller d'y jeter un œil. C'est intéressant. Il y a plein d'anecdotes. Voilà, donc on a pu un peu expérimenter, voir comment ça se passait. Et là, il est devenu sympathique et pas un vieux prof grincheux. Donc je me suis dit que c'était agréable de travailler avec lui. Et surtout pour le fait qu'il me laissait de très très libre sur le dessin. En général, il me donnait assez peu d'indications que ce qui est vraiment nécessaire, ce qui sera écrit sur la planche en réalité, les dialogues et les voix off qui seront écrits sur la planche. Et moi, au niveau de la mise en scène, je pouvais être très libre, ce qui m'a plu. Donc, c'est pour ça qu'on a continué ensemble quelques années après, lorsque Glenna nous a proposé, enfin, a proposé d'abord à Olivier de travailler sur ce personnage Bob Denard. Donc, Olivier, ça lui a plu parce que, bon, il le dira mieux que moi, mais en quelque sorte, ça lui permettait de décrire toute la politique de cette période-là à travers, voilà, à travers la figure de ce mercenaire. Et du coup, moi, au départ, ça m'a fait un peu flipper de dessiner des armes et des mercenaires en même temps. Du coup, ça a fait un défi pour moi de dessiner tout ça. Et vu que je savais que je pouvais être très libre sur la figuration, eh bien, voilà, ça m'a permis d'expérimenter plein de choses et au niveau du dessin, de m'amuser beaucoup.
Voilà, on va préciser ça, mais avant, je voulais vous demander, pour vous, Bob Denard, ça représente, vous saviez qui c'était, ça vous disait quelque chose, vous
avez absolument tout
découvert de l'histoire de ce, de ce mercenaire, de cette qui vient de la région, mais qui a une vie quand même assez incroyable. Et comment, vous le dites un peu dans un entretien que vous donnez à la fin du livre, comment on arrive à trouver justement un personnage qu'on n'a pas connu, on l'a pas vu, on a pu voir peut-être des vidéos, quelques images d'archives, des photos. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on le tient ?
En fait, du coup, mon dessin est pas très réaliste, ce qui fait que au moins j'ai pu éviter les erreurs de sa morphologie, quoi. Oui. Et après, voilà, je me suis accrochée sur certains détails de son visage. Hein. Typiquement, il a le nez un peu tordu, il a une lèvre inférieure qui pend un peu. Enfin, des choses pas très réjouissantes d'ailleurs, parce que j'avoue que j'avais pas beaucoup de sympathie non plus pour le personnage.
Non, hein. On peut comprendre.
Et donc, je me suis un peu accrochée à ces éléments physiques.
Oui, ces disgrâces, disgrâces.
Quelques disgrâces qui peuvent le suivre presque donc de
10 oui, oui, oui,
ans à sa
on
mort.
On le reconnaît à travers... Mais alors, ce qui est assez fascinant dans cet album, que je vous invite à découvrir, et vous l'expliquez, c'est que en fait, vous avez changé d'univers, de couleur et de technique d'une certaine manière, quasiment d'un chapitre à l'autre.
C'est ça. Peut-être, je crois qu'il y a 8 chapitres, à chaque fois qu'il va changer d'endroit, puisqu'on retrace toute sa vie... Donc au Maroc, au Congo, Katanga, Indochine au départ aussi. Je me suis dit qu'à chaque fois, je pouvais prendre cette liberté-là, justement, de changer de technique, de changer de couleur totalement, pour justement changer d'univers et que justement, ça aurait un sens aussi dans le récit, autre que le fait que ça m'amuse beaucoup de changer. Voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a la douceur de l'enfance, comme vous le dites, et puis il y a des moments de violence, enfin, avec des armes, avec... Il y a une scène de, où je me souviens, l'équipe de Bom Dédard de mercenaires au Congo, ils se mettent nus et ils font un combat rituel et ils se transpercent joyeusement. Ça doit pas être simple de dessiner ça, ces corps,
oui, c'est vrai,
et ce sang.
Oui, alors pour la représentation de la violence, c'est vrai que je me suis pas... J'ai essayé de faire le plus symbolique possible, juste évoquer, même presque drôle parfois, le fait que voilà, on a un poignard qui transperce la peau, ça fait un trou béant.
Ah oui, il y a un sacré trou, oui.
Voilà, des gros trous, des grosses giclures de sang, un petit peu presque cartoon. Pour, finalement, c'est pas du tout pour dédramatiser la chose, parce qu'on le sait déjà, hein, que c'était sanglant et voilà. C'est plutôt justement dans l'idée que, peut-être par égard pour les victimes de cette période-là, de se dire, bon, bah, ça sert à rien d'en plus rajouter quelque chose de vraiment sanglant, de dérangeant, quoi, au niveau de la violence. Donc, j'ai pris ça un petit peu plus symbolique, quoi.
Après, vous êtes immergé dans la ville à destinée de Bob Denard. Comme vous le dites, on commence ici dans la région bordelaise, mais on va très vite aller au Maroc, en Indochine, au Congo, au Katanga, bien sûr les Comores, dont il était quasiment le roi des Comores. Qu'est-ce que vous avez perçu de cette période? Est-ce que ça vous a révélé des choses inattendues ou inconnues sur ce qu'était notre pays et comment des hommes comme lui, qui servaient la France, pouvaient finalement mener les basses œuvres au nom de la République française?
Oui, j'ai remarqué que nos cours d'histoire au collège étaient un peu lacunaires, qu'on oubliait parfois de dire que la France était un peu crade dans certaines histoires. Donc voilà, Olivier m'a un peu ouvert les yeux là-dessus, même si j'ai fait aussi quelques recherches sur les services secrets qui sont toujours un peu le cul entre deux chaises à se dire si tu réussis, tant mieux, sinon on te couvre pas du tout, quoi. Enfin, voilà, des choses comme ça un peu.
Oui, on n'est pas tout à fait dans le OSS 117 du jardin, hein, c'est un peu plus gore. Et alors, peut-être est-ce qu'on peut revenir à ce que vous pourriez nous dire. Dans les grandes lignes, ce que vous avez retenu, vous, de Bob Denard, dans cette période, il faut rappeler que c'est le moment de la décolonisation. Alors, il y a eu plusieurs décolonisations. La France a été un empire en Indochine, et puis elle est restée un empire en Afrique. Et puis, vous décrivez très bien le retour du général de Gaulle. On le voit qui vole quasiment sur vos pages. Donc, de Gaulle revient au pouvoir en 58, et il va avoir un homme de l'ombre, qui va l'épauler et qui va être le chef d'orchestre des basses œuvres, qui s'appelle Jacques Faucard, donc ce qu'on a appelé les réseaux Faucard en Afrique, et qui vont à la fois fomenter des coups d'État, faire taire des opposants, déstabiliser des pouvoirs. Voilà, donc Bob Denard, dans cette politique, comment vous le percevez, qu'est-ce qu'il a été pour vous?
Eh bien, disons que c'est un peu le dernier, justement, de ces mercenaires qui sont un peu des affreux, quoi, des roots, un petit peu qui cherchent l'aventure, tout ça. Et donc, c'est
oui, on sent qu'il a besoin d'aventure. Vous décrivez très bien l'ennui à un moment donné, quand il est jeune, il veut partir, quoi.
Il veut copier son père et faire la guerre aussi, faire l'aventure, etc. Donc, il y a cet engouement de voyager et d'aventure qui paraît presque touchant,
oui.
Mais avec des fins un peu néfastes, quoi.
Des fins répréhensibles. Alors, ce qui est très intéressant, bon, il y a des très belles images, y compris d'ailleurs d'animaux, il y a des zèbres quelquefois. Et puis alors, vous faites, là je montre comme ça, il y a des pages qui sont très intéressantes parce que justement elles recontextualisent, c'est-à-dire il y a l'action de Bob Denard, mais avant d'être vraiment dans son action à lui, il y a l'évolution du pouvoir, la situation du pays dans lequel il est. Et d'ailleurs, c'est un homme à tête de mort qui parle. Pourquoi vous avez choisi ça?
Alors en fait, on a choisi de faire dialoguer tout le long du récit Bob Denard avec la mort,
oui.
Pour justement montrer le rapport conflictuel qui peut y avoir entre les deux, où justement il se pense un petit peu invincible, quoi, tout au long de l'histoire. Et la mort est là pour un petit peu le questionner, le titiller tout le long de l'histoire. Donc Olivier Jouvray, il dit que la mort est un petit peu donc Olivier lui-même qui s'est posé devant Bob Denard et s'est dit mais enfin qu'est-ce qui pousse un être comme ça à devenir un mercenaire presque roi des Comores, qu'est-ce qui le pousse à faire ça. Donc je vais prendre Olivier prend l'apparence de la mort pour aller le questionner un petit peu tout le long du récit et le titiller, quoi.
C'est ça. Pour vous, vous le définiriez, qu'est-ce que c'est ces mobiles à Bob Denard jusqu'au bout? Alors, vous avez parlé de l'aventure. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une idée de qui travaille pour la France, pour que c'est malgré tout qu'il y a une certaine grandeur de la France qu'il faut préserver, même si c'est le prix à payer, c'est des actions répréhensibles?
Je crois que oui. Alors je sais pas si c'est. Je pense que c'était pas simplement un mercenaire qui agissait pour l'argent. Il avait des sortes d'idéaux plus grands que ça, a priori.
Ouais. Oui.
Donc anticommuniste et etc.
C'est ça. Je crois que l'anticommunisme est quand même un ressort assez important chez lui. Et puis il faut rappeler, vous, c'est très bien rappelé dans ce document, parce que c'est aussi un document. Si on se replace dans le contexte de la fin des années 60, il faut jamais oublier que la décolonisation en Afrique, elle est sur un fond de guerre d'Algérie aussi, qui s'arrête en 62 avec les accords d'Évian, et que avec l'indépendance de l'Algérie, c'est le pétrole qui s'en va aussi. Et donc il y a cette obsession française d'avoir une, sinon une mainmise, mais un accès privilégié à un certain nombre de matières premières. On est presque dans l'actualité d'aujourd'hui, mais avec l'uranium, bien sûr, pour le nucléaire, le pétrole du Congo, et puis il y a aussi évidemment les forêts, le bois, les métaux précieux, l'enjeu du Katanga, ça va être ça. On a l'impression, quand on lit ces combats de Bob Denard, qu'on est d'une certaine manière, surtout avec ce qui se passe en Ukraine depuis 3 mois, qu'on revient à ces enjeux primaires, j'allais dire, qui est comment on va mettre en coupe réglée, mais en tout cas avoir un contrôle, une maîtrise, voire la mainmise sur d'accès à des ressources.
Je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais je suis d'accord avec vous.
Mais comme c'est dans le livre, ça m'a inspiré, parce que j'ai trouvé ça passionnant.
Oui, j'avais fait une image un peu au centre du bouquin, à peu près, sur le réseau Focar, justement, avec un énorme Focar un peu araignée métallique qui va aller toucher un petit peu tous les bouts de l'Afrique pour récupérer tel ou tel.
Ça va jusqu'en Afrique du Sud. Voilà. Enfin, mais voyez, justement, votre illustration, vous êtes modeste, parce que votre illustration, justement, des réseaux Focar, elle vaut beaucoup de cours de sciences politiques que j'ai lus, qui étaient beaucoup plus ennuyeux. Moi, je dis pas ça à Bordeaux, ça devait être mieux. Donc, vous voyez, vous avez des doubles pages comme ça où on rentre vraiment dans l'enfer végétal. Et puis, après, vous avez ces batailles tribales comme ça qui sont très, très bien représentées. La couverture est très belle, très forte aussi. Comme vous disiez, c'est la danse avec la mort.
Mm. Avec Bob qui a le flingue derrière, au cas où il peut quand même.
Il n'est pas tranquille. Il pourrait tuer la mort si vraiment elle l'embête.
En même temps, il est un peu idiot, quoi. Qu'est-ce qu'il fait avec un flingue pour tuer la mort, quoi. Enfin, le gars aussi.
Allez savoir. Alors, il y a un passage qui est très intéressant, c'est que quand son capitaine ou son lieutenant des mercenaires est appelé à d'autres fonctions, c'est lui qui prend le job, et il leur dit, comme on les appelle les affreux, il dit moi j'ai pas envie que vous ayez l'air de gueux, et il veut les rhabiller, il veut leur mettre le béret rouge des paras français. Là vous êtes un peu amusé dans la manière de les représenter.
Oui, dans les clopes au bec, les torses nus, tout ça, ouais, ils sont vraiment assez drôle à dessiner, les affreux, au final. Ouais.
Oui, c'est ça. Ils sont pas si affreux que ça. Et puis, alors, après, il y a des dessins vraiment d'un autre genre. On se croirait quasiment dans les mille et une nuits, là. Vous voyez, il y a aussi des très grands portraits que vous faites, comme des gros plans. Et ça, je trouve que c'est très astucieux dans la construction, parce que ce livre qui fait quand même, je n'ai pas compté, mais qui fait...
130, je crois.
Oui, voilà, 130 pages. On s'ennuie jamais parce que... Justement, il y a cette diversité du coup de crayon, il y a ces couleurs qui créent des ambiances un peu comme au cinéma où on a quelquefois des couleurs très, très dures et puis après ça s'adoucit et on voit bien que le récit change au fur et à mesure. Enfin, c'est un très, très beau livre et passionnant. Et c'est l'esprit du prix du réel à travers ces livres, de montrer une réalité. Et là, je pense que pour tous ceux qui s'intéressent à, j'allais dire, à la géopolitique, à la politique française de ces années, qui étaient quand même des années assez sombres, assez noires, un livre comme ça autour de Bob Denard est richement illustré et documenté. Ça vous donne tout de suite vous êtes dedans, quoi. Vous êtes embarqué. Donc voilà nos deux livres. Rodolphe Barry, Une lune tatouée sur la main gauche. Et puis Bob Denard, Le dernier mercenaire, avec Olivier Jouvray et Lila Cogné. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous et bravo.
Merci.